Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Victoire de Jane Wyallen Armstrong dans la circonscription de Montfoui. L'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest est désormais à majorité féminine. La municipalité de Yellowknife a décidé ce qu'elle fera d'un montant de 1,2 million qui lui a été alloué par le gouvernement fédéral pour la lutte à l'itinérance. Le Wildcat Café de Yellowknife se transforme cet été en centre des artistes. Une liste de travaux routiers qui seront accomplis à travers le territoire au cours des 6 prochaines années a été dévoilée cette semaine. Le tout devrait coûter environ 50 millions de dollars. Et finalement, ma collègue Nelly Guidici nous parle des impacts des changements climatiques sur certaines espèces d'oiseaux en zone arctique. L'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest accueille une nouvelle députée. Jane Wyallen Armstrong représente désormais les électeurs de la circonscription de Montfoui. Selon les résultats non officiels des élections préliminaires qui se sont tenues ce mardi 27 juillet, la candidate l'a emportée haut la main avec 503 voix. Elle est suivie par Kevin Chilla, qui a obtenu 250 votes. Avec l'arrivée de Mme Wyallen Armstrong, l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest est, pour la première fois de son histoire, composée d'une majorité de femmes. Jane Wyallen Armstrong, une aînée Klitschon, était jusqu'à récemment présidente de l'Association des femmes autochtones des territoires du Nord-Ouest, un poste qu'elle a occupé durant 6 ans. Elle a également été conseillère à la collectivité de Bechokon. Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, la députée est également diplômée en travail social. Jane Wyallen Armstrong occupera ainsi le siège laissé vacant par le départ de Jackson Lafferty, qui aura siégé à l'Assemblée législative pendant 16 ans. Au cours de son mandat, M. Lafferty aura notamment été ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, ministre de la Justice et également ministre responsable des langues officielles. En 2019, M. Lafferty a perdu l'élection au poste de premier ministre des Territoires du Nord-Ouest face à Caroline Cochrane. Les racines, l'histoire et l'héritage francophone des territoires du Nord-Ouest, voilà ce qui devrait être mis en valeur dans le cadre d'une future fête de la francophonie. C'est l'opinion de 48% des 128 répondants qui ont rempli le sondage proposé en juillet par l'Association franco-culturelle de Yellowknife. L'association est présentement en phase de consultation en vue de la création d'un projet pilote de fête de la francophonie. Selon le directeur général de l'AFCY, Maxime Joly, l'événement pourrait avoir lieu d'ici l'été 2023. Les résultats de ce récent sondage étaient dévoilés ce jeudi 29 juillet dans le cadre d'un café citoyen auxquels étaient conviés les membres de la communauté francophone et les francophiles des territoires du Nord-Ouest. On apprenait notamment que 64% des répondants souhaitent que cet événement s'adresse à l'ensemble de la collectivité, incluant par exemple les anglophones. 57% des répondants souhaiteraient participer à une célébration urbaine de masse, qui serait d'une journée ou plus et qui s'adresserait à l'ensemble de la collectivité, avec des activités et des concerts d'envergure. 43% des répondants préfèrent un concept nature à l'extérieur de la ville, conçu pour les francophones et les francophiles. Parmi les sites proposés dans le sondage, 3 se sont particulièrement démarqués. En majorité, les répondants souhaiteraient que l'événement se tienne à la place Sambaquet à Yellowknife, dans le cadre du festival Folk on the Rocks, ou encore sur le site du Conjo Camp Connection, qui est situé sur la Himgram Trail. 83% des répondants se sont dit parfaitement d'accord ou plutôt d'accord à ce que cet événement d'une fête francophone réserve une place aux Premières Nations dans la programmation et fasse preuve de respect et d'ouverture à leur endroit. 75% des répondants se sont dit parfaitement ou plutôt d'accord à ce que cet événement réserve une place aux communautés ethniques désirant partager leur culture et créer des liens avec nous. Comme l'a souligné le directeur général, Maxime Joly, l'idée de créer une telle célébration a été motivée par le fait que la communauté francophone des TNO est parmi les seules au pays, avec le Nunavut, à ne pas avoir d'événement annuel qui lui est consacré. La municipalité de Yellowknife allouera plus de 800 000 $ à l'aménagement d'une dizaine d'unités d'habitation qui accueilleront des jeunes et des familles en situation d'itinérance. Cet argent provient d'un fonds de plus de 1,2 million qui a été offert en 2021 par Ottawa dans le cadre du programme Reaching Home. De ce montant, la municipalité allouera également plus de 347 000 $ à l'Arctic Indigenous Wellness Foundation, qui vient notamment en aide aux personnes autochtones en situation d'itinérance. 10 000 $ seront consacrés à des formations offertes aux travailleurs de rue et aux employés de première ligne. L'allocation de ce fonds a été élaborée par le Comité consultatif sur l'itinérance de la municipalité de Yellowknife. Le conseil municipal l'a adopté ce lundi 26 juillet. Ce comité a lancé au printemps dernier un appel de propositions auprès d'organismes et d'entreprises de la municipalité afin de déterminer la façon dont serait dépensé ce montant. Un organisme non gouvernemental s'est notamment proposé pour prendre en charge l'achat et la gestion de futures unités d'habitation, ce qui aurait incité le comité à y consacrer ses 800 000 $. Un processus de demande de propositions sera tout de même enclenché avant de mettre ce projet en branle. Comme l'explique la conseillère municipale Shauna Morgan, qui est également présidente du comité consultatif sur l'itinérance, le gouvernement des TNO a manifesté l'intérêt d'obtenir une part de ce fonds en guise de contribution pour la mise sur pied d'un second centre de jour à Yellowknife qui accueillera les personnes sans abri. Comme l'explique Mme Morgan, bien que le comité appuie ce projet, il serait encore trop tôt pour y accorder un financement.
It wouldn't be appropriate to toss our money in with their pot, not really knowing what it would be used for or when, or, you know, we didn't have any details whatsoever. So we thought we should go with something that we know can work. There's an organization ready to do this, house people. But the committee still wanted to emphasize that, yes, of course, we need to partner with the GNWT, and that's not just about, you know, offering this one-time funding.
Donc, comme l'indique ici la conseillère municipale Shauna Morgan, selon le comité consultatif sur l'itinérance de Yellowknife, il n'aurait pas été approprié d'investir une partie de ces fonds dans le projet de centre de jour du gouvernement des TNO, qui, aux yeux du comité, manque présentement de détails. « Nous avons considéré aller vers un projet dont le succès serait assuré », indique-t-elle, en insistant toutefois sur l'importance de ce projet pour le comité qui compte s'y investir au-delà d'une contribution financière de cette nature. La municipalité de Yellowknife dénombrait en 2018 338 personnes itinérantes. 98 % étaient des personnes autochtones et environ le tiers n'avait pas encore 18 ans. Un nouveau décompte a été entrepris ce printemps. Les résultats devraient être dévoilés au courant de l'été. C'est officiel, le Wildcat Café de Yellowknife ouvre ses portes jusqu'à la fin de l'été. Le célèbre établissement de la vieille ville, qui était fermé depuis 2019, accueille un nouveau centre des arts qui a été mis sur pied par la coopérative des artistes de Yellowknife. Une série d'événements et d'ateliers ouverts à l'ensemble de la communauté sera proposée jusqu'en septembre. Un accent particulier doit être mis sur l'art-thérapie. Une quinzaine de créateurs et de passionnés des arts étaient rassemblés ce lundi 26 juillet pour jeter les bases du projet et réfléchir à la programmation des prochaines semaines. Il s'agissait de la première d'une série de rencontres-discussions qui auront lieu tous les lundis de l'été et qui seront ouverts à l'ensemble de la communauté sous inscription. Une activité qui s'inscrit dans la mission et les valeurs du centre, comme l'explique la présidente Fia Grogono.
Nos valeurs sont basées sur la communauté, la connexion puis la co-création. Il va y avoir des open meetings les lundis soirs pour que les personnes puissent venir voir qu'est-ce que... En fait, c'est un système de recherche. On recherche l'input des personnes, on cherche les avis, puis on demande les questions. Si quelqu'un a une question, c'est quoi l'art? Pourquoi est-ce que je devrais payer pour ça? You know, what's art therapy? What is tarot? Les personnes qui ont des questions, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, c'est aussi une place pour ça. La discussion autour des arts, puis qu'est-ce que les arts offrent aux communautés. Parce qu'on crée ça ensemble. C'est pas nous qui créons ça puis donnons ça à Yellowknife. C'est vraiment la communauté qui vient ensemble, qui crée ensemble.
Le célèbre édifice patrimonial de la vieille ville qui ouvrait pour la première fois ses portes en 1937 devient ainsi le lieu de démarrage d'un projet qui est appelé à prendre de l'ampleur au cours des prochains mois et des prochaines années.
Ici, au Wildcat, on gère ça comme un catalyste. Puis, ça va durer jusqu'au fin septembre, parce qu'après ça, c'est la fin de notre contrat, fin septembre. Mais on veut continuer ce projet. L'idéal, ça serait qu'il y ait un espace qui se présente à nous, qui serait capable de nous accueillir pendant l'hiver. La vision, c'est d'avoir un centre durable, permanent, ici à Yellowknife. Et il y a plusieurs partnerships qui sont en train d'être formés parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont un centre ou une vision similaire autour d'un centre, d'un espace pour les arts, puis un espace pour la communauté surtout.
Si la programmation des prochaines semaines reste à définir, on s'entend pour consacrer les vendredis soirs aux séances Jam Sessions où musiciens, danseurs et tout autre créateur seront invités à collaborer. C'est cette fin de semaine, les 31 juillet et 1er août, qu'a lieu l'inauguration officielle du centre avec une exposition de peinture et de sculpture de la Trash Formation présentée par Ecology North. Près de 50 millions de dollars sont investis pour l'amélioration des systèmes routiers de 16 collectivités des territoires du Nord-Ouest. De ce montant, près du quart, soit 13 millions, proviennent directement du budget des collectivités. Les 37 millions restants sont financés par Ottawa. Thomas Chabot s'est penché de près sur l'information qui est disponible jusqu'à présent. Thomas, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur les échéanciers de tous ces projets.
Sincèrement, pas grand-chose pour le moment. Aucun de ces projets n'a débuté pour l'instant. Il n'existe pas d'échéancier précis. Cependant, le ministère des Affaires municipales et communautaires, MACA, a confirmé à Média Ténois que ces projets devront être réalisés avant septembre 2027.
Effectivement, ce qu'on a pour l'instant, c'est vraiment une liste. Donc, le gouvernement a 6 ans pour concrétiser ses plans. Qu'en est-il des travaux, là? Qu'est-ce qui va être fait et où est-ce que ça va se passer?
Alors, majoritairement, eh bien, ces travaux, ce sont des améliorations des routes déjà existantes et des mises à niveau des systèmes de drainage dans les diverses collectivités. Pour les emplacements de ces travaux, je vous dirais que c'est assez généralisé sur l'ensemble du territoire. Plusieurs projets ont été annoncés du côté de Bechocon pour un investissement total de 6,7 millions de dollars, dont la construction de 2,5 km de nouvelles routes de lotissement du côté de Ray et la remise en état des installations de drainage de 25 routes de la collectivité. Une étude sera aussi réalisée concernant la possible conversion du pont de Bay Island en un pont à 2 voies. Présentement, c'est un pont à 1 seule voie. Mm-hmm. Pour ce qui est de la capitale ténoise, eh bien, c'est un peu plus de 9 millions de dollars qui est octroyé par Yellowknife pour divers projets de pavage et d'amélioration des infrastructures routières asphaltées. Et ça, eh bien, c'est la seule échéance, disons, ciblée que l'on a. Les travaux sont prévus pour 2022-2023. La ville de Hay River, bien quant à elle, dépensera 5,3 millions de dollars pour la réfection d'un kilomètre de route le long de Capitol Drive et Industrial Drive. Pour ceux qui sont à Hay River, eh bien Capitol Drive, c'est la rue du cinéma Rose ainsi que du Liquor Store et Industrial Drive de l'autre côté de l'autoroute à côté du Home Hardware. Présentement, c'est une route en terre battue, c'est des plans de l'asphalter. Fort Smith est bien mise aussi sur l'asphaltage, c'est une tendance dans le Slave-Sud, avec la conversion de 6 routes de gravier en routes asphaltées justement. Ce sont donc 7 km du système routier de Fort Smith qui seront refaits pour 4,5 millions de dollars. Et sinon, pour les travaux un peu plus précis qu'on a, c'est les seuls qui sont précisés, les autres c'est juste réfection des routes, installation d'un enduit, mais à Tulita c'est Bear Rock Drive, Sesame Street, Caribou Crescent, Lenny Crescent, ainsi que quelques autres rues qui seront resurfacées et améliorées au coût de 500 000 dollars. Et finalement, eh bien, du côté d'Inuvik, c'est 2,5 millions qui seront octroyés pour la réfection de 500 mètres de la rue Brainat à Inuvik. Et notamment, eh bien, il y aura l'ajout de panneaux de signalisation. Et s'il y a un fait intéressant à noter, c'est que le Decho est la seule région administrative des territoires du Nord-Ouest qui ne connaîtra pas d'investissement routier pour les prochaines années. En ce qui concerne les autres régions, pour le Slave Nord, c'est 21 millions de dollars. Dans le Slave Sud, 13,5 millions de dollars environ. Dans le Beaufort Delta, on est à 8,6. Et finalement, la région du Satou est à 5,5 millions de dollars dans ce plan d'investissement routier.
Donc, un gros investissement sur 6 ans. Ce sont les détails qu'on a pour ce qui est des dates de début des travaux. Il n'y a encore aucune information qui a été dévoilée. Thomas Chabot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Une étude de l'Université McGill à Montréal met en lumière la vulnérabilité de certaines espèces d'oiseaux marins de l'Arctique face au réchauffement climatique. Ma collègue Nelly Guidici est avec nous pour nous en parler. D'abord, Nelly, quelles espèces d'oiseaux ont retenu l'attention des chercheurs?
Alors, cette étude qui a été publiée finalement dans le Journal of Experimental Biology concerne une colonie de guillemots de bruniche qui en été nichent dans les falaises de l'île Coates dans le nord de la baie d'Hudson au Nunavut. Alors, en hiver, la colonie, elle migre au Labrador et à Terre-Neuve. Et il faut savoir que le guillemot de bruniche est une espèce assez répandue dans tout l'Arctique. Une équipe donc de chercheurs s'est rendue pendant 2 mois sur cette île de la mi-juin à la mi-août 2019 pour étudier ces individus reproducteurs dans cette colonie de cette île qui s'élève à 30 000 individus.
Et Nelly, on sait que le réchauffement climatique entraîne toutes sortes de perturbations, de réactions en chaîne. Dans le cas présent, là, il semble que ce soit vraiment la chaleur en soi qui cause problème.
Oui, alors on sait que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs et l'augmentation des températures a des conséquences pour ces guillemots de bruniche qui sont finalement très peu adapté à la chaleur. Par exemple, lorsqu'il fait chaud, l'oiseau bat des ailes pour tenter de se rafraîchir. Mais l'énergie qu'il déploie pour tenter de se rafraîchir est importante et au final, sa température corporelle augmente. Les chercheurs ont aussi réalisé finalement que le lieu de nidification sur les falaises ensoleillées ont des conséquences pour les oiseaux qui parfois meurent dans leur nid. L'une des autrices de l'étude, Emily Choi, qui est boursière en recherche postdoctorale à l'Université McGill, rappelle qu'en fait, qu'il est important de continuer à étudier les conséquences de la hausse des températures sur les oiseaux marins et sur toute la faune arctique sur le long terme, parce que finalement, ces effets de l'augmentation des températures sur la faune sont peu connus et peu documentés encore aujourd'hui.
Donc, une nouvelle inquiétante là, pour la faune arctique. Nelly Guinessy, merci beaucoup.
Merci, Thomas.
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Territoire d'info fait relâche. La semaine prochaine, on vous revient sans faute à partir du vendredi 13 août. Je suis Thomas Etier, journaliste pour Médias Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info, une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.